Voilà, mes amis. Alors, j'espère que vous avez le livret ouvert sous les yeux. Nous venons de prier déjà de par ce chant à parole et donc on va s'y mettre directement. On termine cette petite série juste avant Noël dans les paraboles du royaume, le royaume des cieux que Jésus annonce. Et aujourd'hui, donc, nous voyons le sens des trois dernières paraboles de ce chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Mais on commence ailleurs, on commence en 1857 avec un homme, un financier nommé James Townend, qui, lui, dans le New Haven aux États-Unis, a rencontré un homme nommé Edwin L. Drake. Lui, un ex-conducteur de train aux États-Unis de 38 ans. Townend, avec un tout petit groupe d'investisseurs, cherchait quelqu'un pour mettre en pratique une idée spéculative pour forer dans le rocher pour extraire le pétrole. Personne n'avait développé jusque-là cette méthode et beaucoup se moquaient de cette idée. Pomper le pétrole de la terre comme on pompe l'eau, bah c'est ridicule. Pour donner donc à Edwin Drake un peu de crédibilité parmi les personnes, les pionniers, les frontaliers dans la Pennsylvanie où il allait, on surnommait cet homme, même s'il n'avait pas du tout de carrière dans l'armée, le colonel. Et voilà, en décembre de cette même année, après un voyage pénible sur un wagon dans la boue, il arrive dans un coin perdu, un tout petit village appauvri, appelé, bon, en anglais, Titusville, Titeville, ville de Tite. 125 habitants, dont le seul métier pour tous ceux qui habitaient, c'était d'être bûcheron. Bon, rapidement, à la grande surprise des résidents, M. Drake, il achète un terrain, avec bien entendu l'intention de forer. Tous lui disaient que le pétrole, ce n'était que l'excès. Alors ici, je saute de mes expertises, il faut voir Samuel après pour qu'il vous explique tout cela. Mais ce n'était qu'à l'époque l'excès liquide du charbon. Et il n'y avait pas de grande quantité en dessous la terre. Bon, un an et demi plus tard, dans août 1859, les investisseurs, sans aucun retour après un an et demi pour leur investissement, écrivent à Drake une dernière fois pour lui dire qu'il faut tout arrêter, il n'y a plus d'argent. Avant de recevoir leur lettre, le 27 août 1859, à environ 21 mètres de profondeur, la machine que Drake a pu développer, sur base du même système d'amphore de sel apparemment, a pu toucher un puits de pétrole. Et 2 jours plus tard, le jour même qu'il recevait l'ordre de tout arrêter, Drake, avec quelques-uns de ses ouvriers, se trouvait en train de pomper avec une pompe à main le pétrole de la terre comme on pompe l'eau. Yankee, il a trouvé du pétrole! Ils ont crié dans la ville de Titusville. Conséquence, tout de suite, la population du petit village s'est multiplié du jour au lendemain. Et le prix des terrains a augmenté instantanément. Mais oui, car dès qu'il voyait le pétrole, il comprenait à quel point cela avait de la valeur. Acheter des terrains dans Titusville devenait une toute haute priorité, car en dessous, il y avait des richesses inimaginables. Un long voyage pénible dans un wagon peu confortable, un trajet sans sommeil pendant une semaine ou deux, dépenser tout ce qu'ils avaient pour pouvoir acquérir ce bien-là, travailler pendant des longs mois sans congé, mais bien sûr, cela en valait la peine. Jésus racontait les deux premières paraboles de notre texte, Matthieu chapitre 13, car le même raisonnement s'applique à son royaume. Le sujet reste le royaume des cieux. Nous voyons ça au verset 44, verset 45. Voici à quoi le règne, le royaume des cieux est semblable. Ce royaume qu'il annonce Jésus depuis le début de son ministère, ce royaume qui est proche, car lui, le roi, il vient d'entrer en scène. Et donc, devenir croyant en Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ, c'est devenir citoyen de son royaume. Je me suis perdu dans mon texte là. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme ou une femme, peut-être vous ici rassemblés ce matin, décide d'entrer dans son royaume? C'est que vous soyez persuadé que cela est non seulement peut-être logique intellectuellement parlant, nécessaire parce qu'il faut obéir, vrai parce que c'est la parole de Dieu, mais beaucoup plus, c'est que cela est désirable, bon, merveilleux. Ce n'est que la valeur du royaume qui a la puissance ce matin de nous interpeller, de nous transformer. Dans la première parabole, c'est comme si l'homme trouve le trésor caché dans le champ par accident. Il ne le cherchait pas. Mais que fait-il une fois qu'il trouve le trésor? Il le cache. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre le découvre entre-temps. Il ne le vole pas. Mais il part aussi vite possible pour acheter le champ. On peut supposer que le vendeur du champ soit un peu surpris. Tu n'as jamais fait le moindre signe de t'intéresser jusque-là à ce champ. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça, on ne sait pas. Car Jésus n'est pas concerné par l'autre qui vend le champ, non. Il veut dévoiler la motivation pour entrer dans son royaume. Et donc, on entend ensuite que dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Alors, si on n'avait pas la partie après pour acheter ce champ-là, cette phrase « dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a hein, » est bizarre. J'espère que vous trouvez ça bizarre. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Ben, c'est vrai, dans sa joie. Mais comment ça, nous, dans sa joie? Pas une quête de se débarrasser d'un certain matérialisme qui le guettait jusque-là? Non. Pour acheter ce champ-là. Face à la vraie valeur du champ, une fois que tu prends en compte la valeur du trésor, vendre tout ce qu'il a n'est rien du tout. Bien sûr, il va faire de même. Dans sa joie, parce qu'il comprend la valeur, vous comprenez. Alors, le marchand de perles, dans la deuxième parabole, se distingue de ce premier homme. Car celui-ci, le marchand, il cherche exprès pour des perles. C'est un peu ça son métier. Et un jour, lui aussi fait de même que le premier homme. Il vend tout ce qu'il a pour acheter cette perle de grand prix. Car oui, en tant que marchand expérimenté, il comprend la valeur de ce qu'il achète. Vendre ce que lui, il a, n'est pas une peine non plus. C'est la valeur de la perle de grand prix qui est à la source de son action. Le royaume de Jésus-Christ, comprenons-le bien, est comme le trésor, comme la perle de grand prix. Cela vaut tout pour ceux qui le découvrent. Cela vaut tout pour ceux qui le découvrent. Sans capter cela, sans estimer la valeur inestimable de ce royaume de Dieu, nous serons toujours en train de penser que croire en Jésus est assez coûteux, vous savez, assez exigeant. Et soit nous lâchons l'effort de payer ce coût, de la même manière que quelqu'un lâche une corde si le poids qu'elle tire est trop lourde, soit nous décidons d'alléger le poids en mettant une version de la foi chrétienne qui est moins onéreuse, qui convient un peu plus à ce que moi je suis prêt à payer. Mais ces deux pistes, chers amis, ce sont des fausses pistes, des pistes désastreuses. La troisième parabole du filet relate ce qui doit avoir lieu à la fin. Vous voyez ça à partir du verset 47. Lors du tri final de tout ce qui se trouve dans le filet du bon et du mauvais. Lâcher donc le royaume, ou modifier le royaume pour ce que cela nous convient un peu plus, c'est de dire à Jésus que non, Jésus, ton royaume ne me convient pas. Jésus, il est réaliste. D'après la parabole du semeur que nous avons déjà vue ensemble, il va y avoir de telles réponses. Mais pour finir, de telles personnes qui cherchent éventuellement leur identité, leur épanouissement en dehors du royaume de Dieu, du roi envoyé par Dieu, ils se révéleront rebelles. Et en tant que rebelles, ils seront, que dit le texte, expulsés dehors, jetés, selon le verset 50, dans la fournaise ardente, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce sont des images fortes. Nous les avons déjà vues lors de la parabole de la mauvaise herbe. Et ces images dénotent donc une réalité d'une séparation éternelle qui aura lieu entre le Dieu trois fois saint et l'homme pécheur, d'un jugement définitif qui doit découler pour des rebelles à ce Dieu trois fois saint. Un regret profond d'avoir mis de côté le Seigneur Jésus-Christ. Ben, Jésus raconte cette troisième parabole pour percer, si vous voulez, l'insouciance, l'indifférence de ceux qui rejettent le royaume qu'il annonçait, pour encourager aussi en même temps les disciples que l'opposition, il n'y aura pas pour toujours. La rébellion, il va y en avoir, mais elle ne durera pas pour toujours. Donc des fausses pistes de lâcher le poids lourd du royaume et d'alléger le poids en l'adaptant à notre propre goût à nous ne sont pas de bonnes pistes. Mais comment devons-nous progresser alors? D'abord, j'aimerais dire qu'il faut être lucide quant au coût pour devenir membre du royaume des cieux. Car oui, dans les deux exemples, ce n'est pas qu'ils vendent un pourcentage de ce qu'ils ont, ces deux hommes. Ils vendent tout ce qu'ils ont. Appartenir à Jésus-Christ, à son règne, devenir donc disciple de Jésus-Christ, membre de son Église, coûte tout ce que vous avez. Pas deux tiers, pas la moitié, pas un quart, pas un dimanche matin, par semaine ou par mois, pas une réunion de Zoom tous les sept jours. Non, tout. Absolument tout. Trois chapitres plus tard, Matthieu 16, verset 24, Jésus dit ceci à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Renoncer à soi. Le chrétien est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Nous sommes ceux qui prient que ta volonté soit faite et pas la mienne. Que tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je fais soit pour toi, Seigneur. Le chemin de celui qui se charge de sa croix, c'est un chemin, à l'époque, qui est mené à la mort. On se chargeait de ma croix parce que j'allais à ma mort, avec la croix sur laquelle j'allais être crucifié. Devenir chrétien, suivre Jésus, ce n'est pas, vous voyez, une petite partie de la vie. Peut-être la partie religieuse. Oh, je ne sais pas, la partie dimanche matin, peut-être pour vous. Non, c'est toute une vie consacrée à suivre Jésus-Christ. Mourir, à mourir de soi, se charger de notre croix. La charge, il faut comprendre, est lourde. Le prix est coûteux. Il ne faut pas opter pour une foi chrétienne sans coût. Oui, cela te flatte peut-être, une telle foi. mais cela ne te sauve pas. Car tu continues dans la rébellion à Dieu tout en pensant que Dieu approuve ce que tu fais. C'est de la folie, ça, chers amis. Donc, soyons clairs. Veux-tu suivre Jésus-Christ? Si oui, c'est au prix de toute ta vie. Toute ta vie. Ta vie intime. Ta vie professionnelle. Ta vie d'église. Ton compte en banque. Ton amour pour la musique, tes dons sportifs, ton intellect, ta vie de famille, ta déclaration fiscale, ton téléphone, tes activités en ligne, ta retraite, ta vie en tant que résident dans un home. Tout, tout lui appartient si vous êtes son disciple. Suivre Jésus, qu'en le comprenant bien, ce n'est pas un passe-temps. C'est une vie dédiée à la volonté de Jésus-Christ. Alors, attends deux secondes. J'imagine à ce stade, certains sont en train de dire « Oui, ok, Steve. » En principe, nous comprenons bien le disciple de Jésus obéit en toutes choses à Jésus. Mais cela ne signifie pas concrètement que je dois forcément donner mon argent aux pauvres, que les achats que j'ai prévus ce Noël pour la famille sont exclus, que je ne peux plus regarder le foot, etc. Donc en réalité, ce que tu dis, c'est pas que tout est à Jésus, car je continue à pouvoir en profiter de différentes choses, n'est-ce pas? Mais oui, mais sur quelle base? Non pas sur base d'une repentance à moitié, de renoncer rien qu'à la moitié des choses que j'ai. Sur base d'exercer toute ma vie sous la seigneurie de Jésus-Christ, qu'il est maître de ma vie, que je suis son esclave. Si pendant un temps je vis dans l'abondance, car le Seigneur, dans sa grâce, le permet, tant mieux. Mais comme disait l'apôtre Paul, je sais aussi vivre dans la pauvreté. Il était prêt à accepter les deux circonstances, abondance, pauvreté, parce qu'il a compris que ses richesses, lorsqu'il les avait, appartenait à Dieu. Dieu, en principe, pouvait faire ce qu'il voulait avec. Et l'identité de ce disciple, l'apôtre Paul, ne se trouvait pas dans ses circonstances, mais dans son appartenance au royaume de Dieu. Tout comme notre identité ne doit pas se trouver dans notre épanouissement sexuel, nos désirs artistiques, notre ambition pour nos propres enfants, notre carrière réussie. Si Dieu, dans sa souveraineté, désigne une période pour nous sans pouvoir exercer l'un ou l'autre de ces domaines pour notre propre épanouissement, gloire à Dieu. Je suis prêt, dit le chrétien, à payer le coût, à suivre Jésus-Christ, quand j'ai renoncé une vie dédiée à moi-même. Cela signifie que si tu adores le foot, par exemple, mais tu vois que ta colère auprès d'autres joueurs déborde de trop et fait de toi un mauvais témoin de Jésus-Christ, alors là, tu es prêt à renoncer au foot, car le royaume de Jésus-Christ vaut plus que la gloire que tu peux avoir en jouant au foot. Que si tu adores le violon, mais tu as un accident et que tu ne peux plus jouer le violon, ta vie ne s'effondre pas car ton identité ne se trouve pas dans ce que tu aimais faire avec ton violon, mais parce que ta vie appartient à Jésus-Christ. Si tu espères désespérément rencontrer quelqu'un, mais que pour une raison ou une autre, tu te trouves toujours célibataire, au lieu d'être amer avec Dieu et en train d'envier les autres pour ce qu'ils ont, tu te serviras de ton célibat pour glorifier le Seigneur. Le disciple de Jésus-Christ renonce à lui-même pour suivre Jésus. C'est clair, il faut être clair là-dessus. C'est dur, oui, parfois c'est dur. Mais alors, d'où vient la motivation pour ce faire? La motivation vient lorsque nous valorisons ce que nous obtenons en devenant disciples de Jésus-Christ. Car la perle ou le trésor, c'est Jésus lui-même. C'est le pardon des péchés en son nom. C'est la paix, la sécurité de connaître sa grâce et sa bienveillance, sa protection lorsqu'il revient en jugement sur ce monde. C'est la certitude qu'en lui, je ne suis plus mort dans mes transgressions et de mes péchés, mais je suis ressuscité à la vie, une vie en relation rétablie avec mon Dieu, mon Créateur. C'est cette espérance vivante que j'ai de ce Dieu tout-puissant qui a donné son Fils unique, qui lui, un jour, essuiera toute larme de mes yeux. C'est la profonde reconnaissance que de faire partie de son royaume signifie une perspective de vie au-delà de la mort, lorsque toutes les promesses de Dieu seront accomplies en Jésus-Christ, dans la nouvelle création. La perle, c'est d'être adopté dans la famille de Dieu, devenir membre de son royaume, citoyen du ciel, membre de son corps, l'Église de Jésus-Christ. Tout cela, chers amis, et bien plus, est exposé dans les pages de cet évangile de Matthieu. Ce magnifique livre, ce qu'on appelle la Bible, qui contient, nous avons chanté cela, du trésor, de l'or. Comme disait Jésus en Matthieu 16, « Quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera en abondance. » Alors, connaître cela, goûter cela, tout d'un coup, la puissance et la motivation découlent dans notre cœur pour pouvoir perdre notre vie. Bien sûr, je vends tout ce que j'ai pour découvrir ce royaume-là. Avec joie, je le ferai. Car c'est clair tout d'un coup que le plaisir d'y appartenir est supérieur, plus durable, plus fiable, plus profond que nulle part ailleurs. Alors revenons à cet homme qui a découvert le pétrole, Edwin Drake, pour un instant. Il faut savoir qu'au début de la découverte du pétrole, il n'y avait pas en vue l'utilisation pour des véhicules parce qu'il n'y en avait pas. Son utilité primordiale à l'époque, c'était pour des lampes. La découverte du pétrole a donc été annoncée comme étant une nouvelle ère de lumière. Je cite le livre que je suis en train de lire là-dessus. Avec cela, l'homme a soudainement reçu la capacité de repousser la nuit. Parce qu'il pouvait voir le soir. Et si cela est vrai dans un sens matériel, on peut lire la nuit grâce à l'énergie fossile. C'est encore le cas. On en dépend en étant ici. Bon, il y a un autre sens, plus profond, où la venue de quelqu'un d'autre, à Noël, a fait repousser la nuit. Jean, chapitre 1, dit que Jésus était là. Véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Drake, cet homme qui a découvert le pétrole, quant à lui, n'est pas devenu, pour finir, riche lui-même. Il n'était pas un homme bien habité dans les affaires. Il n'arrivait pas à bien gérer ses investissements. Et en 1866, il avait perdu tout son argent. Se trouvait partiellement invalide, vivait dans la misère, avec beaucoup de douleurs physiques. C'est triste. La promesse de richesse et de bonheur lui a échappé dans sa vie. Mais sachez que ceci, chers amis, la promesse de richesse et de bonheur n'échappe pas le croyant en Jésus-Christ. Richesse ultimement dans la nouvelle création, même matérielle. Mais le bonheur est réel et ça dure. Voici ce que j'ai lu dans un article tout récemment, traduit par Monique pour moi. Merci Monique. Connaître Jésus, l'aimer et être aimé de lui, valent bien mieux que les petits plaisirs qu'apportent les divertissements. Il est bien mieux que le parcours incessant de marécage des médias sociaux. La joie en Jésus dépasse de loin celle des plaisirs illicites, des défenses produites chimiquement et les richesses que notre monde nous offre sur un plateau de la mort. Obéir à Jésus, faire partie de son Église, s'identifier à son corps, valent bien mieux que les accolades temporaires et l'acceptation de ceux qui nous entourent. Les petits plaisirs pâlissent en comparaison avec le plaisir continu et grandissant de trouver sa satisfaction en Dieu. Et merveille des merveilles, ce plaisir que nous prenons en Dieu le glorifie. Alors j'aimerais te demander, cher ami ici présent, est-ce que tu as découvert ce trésor-là, cette perle de grand prix? Sans une telle découverte, il vous manque la puissance, la motivation d'accepter le prix, de tout vendre, de tout soumettre à Jésus-Christ. Et laisse-moi terminer, si vous voulez bien, avec un petit mot adressé à différentes catégories de personnes ici présentes. Je le sais, parce que j'ai bien repéré les différentes personnes ici présentes avant de me mettre debout. D'abord, un mot peut-être pour le non-croyant. Quelqu'un qui se dit, voilà, on m'a invité, mais je ne suis pas croyant, je suis là par respect pour la personne qui m'a invité. Bah, quelle conception as-tu de Dieu, cher ami, de la religion chrétienne? Est-ce que la religion chrétienne est une pratique religieuse comme une autre, afin de trouver une autre dimension, une dimension spirituelle de la vie? Que pour toi, ça c'est légitime, mais ce n'est pas vraiment pertinent à ton égard personnellement. Quelle erreur de penser cela. La foi chrétienne n'est pas une quête spirituelle, car la foi commence avec la découverte concrète, réelle, de la bonté et la richesse qui se trouvent en Jésus-Christ. La joie qui découle de cette découverte fait que nous voici 2000 ans plus tard, toujours en train de chanter les louanges de celui qui nous donne ce trésor. Bon, ensuite, un mot à celui qui fréquente notre assemblée depuis un certain temps, qui réfléchit à la foi depuis un certain temps, sans pour autant avoir fait le pas définitivement pour toi-même. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce pas, cher ami? Est-ce que le prix de suivre Jésus te pèse un peu trop? Bah, tu as raison d'y réfléchir. Mais n'oublie pas ceci. Si tu te concentres trop sur ce que cela te coûte, au lieu de te concentrer sur ce que cela te donne, bien sûr, cela apparaîtra toujours trop lourd. Jésus te dit ceci. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que pourra donner un homme en échange de son âme? Ensuite, un mot pour celui de notre assemblée qui est né d'une famille chrétienne, quelqu'un qui donne peut-être un résumé de leur foi qu'en mettant une longue liste de trucs à faire ou à ne pas faire, aller à l'église, prier, lire la Bible, ne pas faire l'amour avant le mariage, pas d'images illicites sur notre écran, sourire à d'autres chrétiens que vous ne connaissez pas et en tout glorifier Dieu. Est-ce que la foi chrétienne, c'est surtout cela pour toi? Obéir, faire mieux, pas de gros péchés? Non. Au cœur du royaume de Dieu, il y a la joie de connaître Dieu, la joie de savoir que Dieu n'est pas un rabat-joie qui empêche l'épanouissement de l'être humain. Il est généreux, loyal, gracieux, compatissant. Il nous invite à goûter cela. Car ce que nous goûtons est excellent. Arrête donc de croire que Dieu est surtout dur avec nous. Peut-être à l'image d'un parent que vous avez eu, que vous avez toujours. Non, Dieu déborde de bonté envers nous. Bah, qu'en est-il d'un croyant plus expérimenté alors? Mais un croyant qui a connu la déception, les échecs dans la vie, le chrétien qui a dû cesser de jouer au sport suite à un accident, a dû cesser une activité au sein de l'Église, car l'âge faisait qu'elle n'était plus en mesure d'assumer la tâche. Le chrétien qui a vu du sang neuf arriver et se sent un tout petit peu mis à l'écart. Le chrétien qui voit un nouveau style de musique qui arrive, qui n'est pas propre à la propre tradition. Le chrétien qui n'arrive pas à pardonner, car quelqu'un a gâché la direction dans laquelle on voulait aller. Peut-être c'était même un pasteur qui a fait cela, un parent, un responsable au travail. Mais nous ne sommes pas chrétiens, chers amis, pour réaliser nos rêves, notre propre épanouissement à nous. Mais nous le sommes parce que Dieu en Christ nous fait partie d'une réalité qui va au-delà de nos rêves. Tout ce que nous sommes appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui orchestre les choses de façon à ce que je n'arrive pas à faire ce que moi je souhaite faire. Mais ne faisons pas de cette chose donc une idole. Engageons-nous à servir le Seigneur avec joie et reconnaissance, car ce que je reçois en Jésus-Christ dépasse de loin tout le plaisir que je peux en tirer de n'importe quelle idole dans cette vie-ci. Ensuite, un mot pour le croyant qui est pris dans l'emprise de l'un ou l'autre péché. Et ça, il y en a aussi parmi nous. Le croyant qui est un peu désespéré, car la puissance de ce péché revient trop souvent sur le devant de la scène. Alcool, pornographie, colère, mensonge et autres. Et ce croyant sait qu'il faut mieux faire. Mais le problème, c'est que, il a dit ça déjà la semaine dernière, et ça est revenu. Il avait dit cela il y a un mois, et cela est revenu. Il a dit ça l'année dernière, et cela est revenu. Il faut obéir, tu le sais. Et comme tu n'arrives pas à obéir comme tu le souhaites, tu commences à douter petit à petit de l'authenticité de ta foi chrétienne. Mais il faut regarder au-delà de l'obéissance, chers amis, et retrouver la puissance d'un cœur orienté vers des plaisirs plus profonds que les plaisirs de ce monde-ci, plus satisfaisant dès que nous contemplons la perle, le trésor. Alors nous prenons la juste mesure de sa valeur, mettant votre regard sur la valeur du royaume de Dieu. Encore deux catégories. Le croyant désillusionné, ça se dit comme ça, par l'Église. Jésus, je l'aime, hein, bien entendu. Oh, mais l'Église, c'est autre chose. J'ai trop souffert pour pouvoir même aimer mon Église. Mais de nouveau, c'est d'oublier que l'Église est composée de croyants comme toi. Des personnes donc avec une joie de tout vendre pour suivre le Christ, mais des personnes aussi qui parfois ont du mal à comprendre que l'une des choses qu'ils demandent aux croyants lorsque nous le suivons, c'est de reconnaître que d'autres personnes qui ne sont pas comme nous font aussi partie de ce royaume-là. La clé n'est pas de prétendre qu'il n'y a pas de différence au sein du peuple de Dieu, mais de ne pas situer ma joie dans le fait que les autres devront tous voir les choses de ma manière à moi. Non, de situer ma joie là où elle doit être, la valeur inestimable d'appartenir à Jésus-Christ. dernière catégorie. Le croyant préoccupé par sa tâche au sein de l'Église. Ou un point où tout d'un coup, cette tâche commence à dominer sa perspective, de ses relations au sein du peuple de Dieu. Je me souviens d'une époque bien avant Covid où il y avait le temps où on se saluait les uns les autres avec un baiser fraternel à l'église Legers. Un dimanche matin, j'arrive à la porte, bien à l'heure, et tout de suite, il y avait quelqu'un qui m'attendait. Non pas pour me dire bonjour, mais pour me dire tout de suite, dès le début, avec frustration dans la voix, pourquoi, pour l'une ou l'autre raison, quelque chose ne convenait pas dans son domaine de service. Je l'ai écouté, et puis calmement, je lui ai dit, alors on va appeler Daphné cette personne, parce qu'il n'y a pas de Daphné ici présent, les amis. Et j'ai dit, bonjour quand même Daphné, t'as passé une bonne semaine? Et ça a fait, tu me frustres parce que tu me poses une question comme ça. J'ai envie de te parler de ceci. Non, non. Il ne faut pas fixer notre joie dans notre tâche à faire. Petit à petit, attacher notre joie une nouvelle fois au domaine dans lequel je suis de service. Et que si cela n'est pas fait comme moi je le désire, si les autres ne font pas comme moi j'estime ils doivent faire, alors je ne suis plus satisfait. Dans le royaume de Dieu, avec le peuple de Dieu. Et la fraternité diminue au sein de l'Église. Dans ce cas-là, il vaut mieux céder la tâche, les amis. Car d'abord, si nous faisons partie du peuple de Dieu, par sa grâce, c'est une grande joie. Retrouvons, chers frères et sœurs, la puissance de la valeur précieuse de notre foi commune. Et si vous n'êtes pas encore membre de ce royaume, de cette famille de Dieu, je vous prie, chers amis, de vendre tout ce que vous avez pour suivre le Christ. Cela en vaut la peine. Prions. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Merci Seigneur Jésus pour cette perle. Merci pour tout ce que tu nous donnes, par ta compassion, par ta bonté, par ta générosité à nous en Jésus-Christ. Donne à chacun ici présent, Seigneur, de connaître la valeur du royaume des cieux. Donne à tous ceux qui n'ont pas encore fait ce pas de se soumettre à toi, de confesser même là maintenant que oui, tu es le roi. Tu es le roi tout puissant, tu es le roi qui a donné ton fils pour que nous puissions connaître la joie, le pardon de nos péchés, l'espérance vivante pour notre avenir. Donne-nous donc de se tourner vers toi, de se charger de notre croix et de te suivre. Et nous te prions, Seigneur, que cela soit un rappel à chacun d'entre nous par rapport à la motivation. Qui que nous soyons, peu importe le moment dans lequel on se trouve dans notre foi, que nous puissions donc être motivés par la valeur précieuse de ton royaume. Pardonne-nous. Lorsque notre regard s'est glissé vers des idoles, vers d'autres plaisirs, petits plaisirs de cette vie. Et dont nous devrions ensemble pour que la valeur inestimable de ton royaume soit annoncée, soit proclamée, soit vécue au sein de notre assemblée. Protège-nous du mal, nous te prions. Et tout cela au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.